Il y a une personne à qui on a pensé que ce serait intéressant de parler dans le cas de cette fillette qui est décédée à Granby. On blâme beaucoup la DPJ depuis le début de cette histoire-là. Et il y a quelqu'un qui a fait un documentaire en 2005 pour dénoncer certaines pratiques de la DPJ et c'est Paul Arcand. Le documentaire s'appelait « Les voleurs d'enfance ». Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce documentaire-là avait été très bien reçu auprès des élus et de la population. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Ce que je ne savais pas et ce que M. Arcand va nous expliquer dans l'entrevue qu'on va présenter, c'est que ça a été reçu de manière très, très hostile par les principaux intéressés qui sont la DPJ. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de lui parler parce que 13 ans, en fait plus de 13 ans après la sortie de ce documentaire-là, est-ce que Paul Arcand pense que certaines choses ont changé ou se sont améliorées auprès de la DPJ? Et c'est la première chose que je lui ai posée comme question. Au moment où le documentaire est sorti, est-ce que vous avez senti que le vent était en train de tourner, que ce documentaire-là, étant donné que ça avait été très bien reçu par les élus, par la population, pourrait être ce qui ferait la différence et qui ferait opérer certains changements chez la DPJ?
Ben, je vous dirais d'abord que ça a été reçu de façon assez hostile par la DPJ en partant. C'est vrai que je pense que la population, les élus, avaient en tout cas accueilli assez bien le documentaire, mais c'est un documentaire qui pointait des pratiques de la DPJ. Puis des pratiques qui étaient différentes à l'époque de ce qu'elles sont maintenant. Et si je résume en un mot, à l'époque, il y avait quelques enjeux importants, notamment le fait que on trimballait les enfants, des enfants qui se trouvaient en famille d'accueil pouvaient faire 4, 5, 6, 7 familles, ce qui, évidemment, n'avait aucun sens. Il y avait aussi cette espèce de volonté de toujours maintenir des liens avec les parents biologiques dans des circonstances qui étaient absolument délirantes dans bien des cas. Bref, il y avait des problématiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Un peu, et pas tant que ça. Si je parle strictement de la protection de la jeunesse, là où ça a changé, il y a d'abord toutes les réformes de structures qui ont été faites et l'espèce de mentalité comptable qui a été implantée avec la difficulté de recruter du personnel, avec des augmentations de signalement, comme on a vu, des listes d'attente de 3000 enfants, ce qui a pas de sens. Alors, est-ce que à chaque fois qu'il y a un événement tragique, ça peut permettre de bousculer les choses puis faire qu'il y a des changements? On le souhaite. Mais il y a une réalité qui est pas mal plus complexe que ça, je pense.
Bon, vous avez compris que ce qui a principalement changé depuis les voleurs d'enfants, c'est qu'à l'époque, ce qui avait été dénoncé principalement dans ce documentaire-là, évidemment, il y avait eu plein de cas qui avaient été rapportés, puis c'était des cas épouvantables, mais principalement, c'était le fait qu'on trimballait les enfants d'une famille d'accueil à l'autre. Il n'y avait pas de ligne directrice à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, est-ce qu'on essaye de les garder dans leur milieu familial principal de façon prioritaire ou non, et c'était pas ça qui était préconisé à l'époque, ce qui faisait en sorte que les enfants bougeaient d'une famille d'accueil à l'autre. Et là, c'est facile de dire pourquoi ils font pas juste rester avec une famille d'accueil avec qui ça se passe bien pendant 5, 10, 15 ans. Mm-hmm. Le problème, c'est que c'est pas facile d'être famille d'accueil. C'est vraiment pas facile. Tu te ramasses avec des enfants souvent qui ont un passé qui est assez lourd, des enfants qui peuvent être poqués. Oui. Et des fois, c'est les familles d'accueil qui décident de tirer à plat.
C'est vraiment des anges, là. C'est des enfants qui ont eu des problèmes qui sont pas nécessairement causés par eux-mêmes.
Exact.
Mais ils sont des enfants problèmes.
Voilà. Alors, devant cette réalité-là, ben, il y a des familles d'accueil qui décidaient d'abandonner le bateau puis qui appelaient à la DPJ puis qui disaient ça ne fonctionne pas avec cet enfant-là. Alors, l'enfant était promené dans une autre famille d'accueil où la même situation pouvait se produire. Alors, c'est pour ça que 2 ans après la sortie du documentaire de Paul Arcand, ça a donné que le gouvernement Charest est arrivé au pouvoir. Ils ont fait adopter la fameuse loi qui est un petit peu critiquée présentement, qui dit qu'on va essayer par tous les moyens possibles de conserver l'enfant dans son milieu familial, que ça va toujours bien être mieux que le promener dans 10 familles d'accueil en dedans de 3 ans. Alors, c'était le commentaire de Paul Arcand par rapport à ça. Ensuite, vous savez qu'ici, au FM 93, on a fait une entrevue qui a été très poignante avec Guillaume, qui est le fils du bourreau de Beaumont. Oui. Le bourreau de Beaumont, c'est un cas qui a été amplement médiatisé. Paul Arcand, lui, a été très proche de son côté de Patrick, qui était l'autre fils du bourreau de Beaumont. Alors, c'est un cas qui l'a suivi beaucoup, puis c'est un cas qui a été détaillé beaucoup dans le documentaire Les voleurs d'enfance. Et j'ai posé comme question, quand l'histoire du bourreau de Beaumont est sortie, à l'époque, on l'avait qualifié du pire dérapage de la DPJ au Québec, dans l'histoire du Québec au complet. La DPJ avait été fortement critiquée, avec raison, dans ce dossier-là. Et je me suis dit, quand vous trouvez pas ça un petit peu surprenant qu'une situation comme ça arrive aujourd'hui, en 2019, alors que la DPJ est supposée avoir appris de ses erreurs, d'avoir abandonné des enfants comme ça aux mains de parents qui étaient complètement irresponsables à l'époque du bourreau de Beaumont?
Ben, dans le cas du bourreau de Beaumont, d'abord, c'était des abus physiques et à répétition. Et une des stratégies du bourreau lui-même, c'était de déménager à plusieurs reprises. Et c'est comme ça qu'il réussissait à semer la DPJ, c'est-à-dire qu'il changeait de secteur et on perdait sa trace. je mets un bémol quand je dis ça, là, mais et on sait qu'il y a une poursuite, qu'il y a un règlement hors cours que Patrick, là, la victime, a pu avoir une certaine compensation financière. Mais c'est vrai que c'est un dossier que la DPJ a échappé. Vous savez, quand vous êtes un enfant ou un adolescent, que l'été fait très chaud, puis que vous portez un chandail à manches longues, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, j'ai rencontré à ce moment-là des profs qui l'avaient eu, et tout le monde trouvait que c'était un enfant qui visiblement avait des problèmes, qu'il y avait un milieu familial tout croche. Mais on changeait d'école, on changeait de ville, on changeait de secteur, et on réussit à semer, en guillemets, la DPJ. Dans le cas de Grand Bay, fort différent dans la mesure où là, on a deux enfants qui, dès leur naissance, sont pris en charge par la DPJ, tombent sous la responsabilité. Pourquoi? Parce que les parents sont deux irresponsables. Il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de consommation d'alcool. Et je regardais le jugement qui a été rendu, parce qu'il faut comprendre que la petite fille a été placée chez la grand-mère paternelle. Dès le départ, ça a duré un peu plus de 3 ans. Et à un moment donné, le père dit s'avoir pris en main, a une nouvelle compagne dans sa vie, veut avoir des enfants. La mère n'est pas dans le décor, presque pas, en tout cas, quelques visites supervisées. Et là, je pense que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une volonté de laisser des enfants dans le milieu de biologique, là, si on veut, avec un des parents naturels à tout le moins. C'est probablement ce qu'il y a de mieux, dans la mesure où les parents sont responsables, puis dans la mesure où on est capable de leur fournir des services. Et moi, ce qui me trouble le plus dans cette histoire-là, c'est de voir que dès le départ, on savait qu'on était dans un milieu familial trouble, et je peux vous dire que c'est un milieu familial perturbé de façon élargie, là, c'est pas que les parents, et qu'on a fait des interventions. Mais quand vous lisez le jugement qui confie la garde au père et un certain droit à la mère, ça se peut pas, là, l'enfer que cette petite fille-là a vécu. Et on décrit ça avec détail. C'était un enfant qui était perturbé, c'était un enfant qui, évidemment, avait peur dans le milieu du milieu dans lequel elle se trouvait. C'était un enfant, en tant que père, où le pédiatre est allé recourir au médecin, est allé recommander parce qu'elle faisait des chutes. Puis on peut se demander pourquoi, à 7 ans, 6 ans, tu essaies de faire des chutes comme ça, de l'enfermer dans sa chambre puis de part à la porte. Pas certain que le médecin ait dit ça comme ça, mais ce sont les faits allégués devant le juge. Et c'est un enfant qui était agressif, c'est un enfant qui avait des problèmes de comportement à l'école, c'est un enfant qui pleurait, c'est un enfant qui a perdu du poids, qui mangeait pas. Et là, vous me dites que c'est un enfant qui est surveillé par la DPJ, qu'on voit dépérir de cette façon-là. Et il n'y a pas d'autre intervention que je remets l'enfant à son père. Et je rappelle que la conjointe du père a déjà été arrêtée pour avoir frappé la petite. Alors, imaginez un enfant là qui vit chez sa grand-mère, qu'on déracine, qui voit pas sa mère, qui se retrouve avec deux irresponsables qui prennent d'alcool, puis qui ont toutes sortes de problèmes, qui se battent devant les enfants. La police est intervenue à plusieurs reprises. Ça, là, c'est là où la DPJ a échoué davantage. C'est là où l'erreur, à mon point de vue, majeure a été commise. On peut pas tout prévoir, on peut pas tout savoir, parce que la DPJ est souvent utilisée par des couples qui se séparent, puis on part des allégations contre un des conjoints, l'aliénation parentale. Mais dans ce cas-là, c'est un cas qui était suivi depuis la naissance de la petite. Et on a vu cet enfant-là dépérir, et on n'a pas posé des gestes adéquats pour l'empêcher de se morfondre dans cette maison-là, puis de subir des sévices psychologiques, physiques, puis on connaît malheureusement le dénouement.
Oui, ça c'est un point, je pense, qui est aggravant là-dedans, c'est le fait qu'elle est décédée à l'âge de 7 ans et la DPJ était dans la vie de cette petite fille-là depuis ses premières heures de vie. Là.
Hein, oui.
Alors, 7 ans de signalement, 7 ans de mauvais traitement, de sévices, et la DPJ n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions pour la protéger. Et la prochaine question que j'ai posée à M. Arcand, là, je sais que c'est beaucoup les réactions qu'on a au 25-226 depuis ce matin. Il y en a qui nous reprochent beaucoup de blâmer la DPJ là-dedans, parce qu'au bout de la ligne, c'est un juge qui prend la décision. Vous avez raison. La DPJ va faire des recommandations, va monter une enquête, et ensuite, ils vont se présenter devant un juge avec une recommandation. Des fois, le juge va prendre la recommandation de la DPJ. Des fois, il ne va pas prendre la recommandation de la DPJ. Alors, j'ai demandé à M. Arcand, quand on blâme la DPJ, les gens nous reprochent de ne pas parler suffisamment des juges et du système judiciaire. Est-ce que vous trouvez qu'on blâme les mauvaises personnes, finalement?
Bien, c'est-à-dire qu'on peut blâmer le système, on peut blâmer jusqu'au ministre. C'est-à-dire que le jour où vous implantez des systèmes de quotas, comme ça a été démontré dans le reportage de Katia Gagnon dans la presse, dans la mesure où, et on va se le dire franchement, là, il y a peu de gens qui veulent travailler à la DPJ. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est humainement difficile, on est confronté à des cas de détresse, à la misère humaine, à des enfants qui sont dans des milieux extrêmement difficiles. Premièrement. Deuxièmement, quand vous dites on recrute pas de gens, moi j'avais un cas ce matin, c'est une équipe de 18 intervenants, il y en a 4 qui ont quitté de façon permanente ou temporaire. Il y a personne pour les remplacer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on transfère les dossiers, ce qui fait qu'un ou une intervenante doit gérer une multitude de dossiers complexes. Elle n'a pas le temps. Et il y a une espèce de pression pour fermer les dossiers, pour donner un tableau intéressant de rendement. Alors, moi, je ne blâme pas toujours les intervenants de première ligne. Au contraire, ils sont devant une réalité, un portrait, ce qui prenait l'expression, je pense, une espèce de soins intensifs de la nature humaine. Et ils ont peu de moyens. Même si vous êtes un intervenant puis vous recommandez qu'il y ait un suivi plus régulier, ben le suivi n'existera pas. Et c'est pas parce qu'on fait des recommandations aux parents que les parents vont les suivre. Maintenant, pour ce qui est des juges, les juges vont regarder la preuve. Et là, les juges vont tenter de voir, en partant d'idée que c'est lui que l'enfant reste dans le milieu. Mais sincèrement, moi, je dis vu le jugement concernant la petite fille de l'OMB, j'ai de la misère à comprendre la logique de la juge dans le dossier, là, d'avoir pris cette décision-là, parce que la conclusion, c'est on pense que c'est ça qui est mieux, mais pour que ce soit mieux, ben on va contrôler les visites de la mère, on va s'assurer que le père a du soutien, qu'il va y avoir de la surveillance, et tout ça, évidemment, c'est la responsabilité du DPJ. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Et moi, j'ai vu souvent des cas où le juge émettait des ordonnances, puis j'ai pas besoin de remontrer à André Ruffaut là, pour ça, mais les ordonnances étaient claires sur les services à donner aux enfants, et les services n'étaient pas donnés parce qu'on n'avait pas la ressource, parce qu'on était dans la bureaucratie. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que c'est pas... quand on blâme la DPJ, on blâme la protection de la jeunesse, au sens large. Est-ce que les policiers font assez de signalements? Quand vous êtes des policiers, puis que ça fait 4-5 fois que vous êtes dans une maison où ça se bagarre, puis finalement, ça se ramasse devant le tribunal, puis vous constatez l'état des enfants, en faites-vous des signalements? Je ne sais pas, à Québec, moi, ce qu'on me dit au SPVM, il n'y en a pas tant que ça de signalements faits par les policiers. Dans le cas qui nous intéresse, le milieu scolaire aussi a fait des signalements. Ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une enquête qui va le démontrer. Mais combien de gens m'ont dit, par exemple, que j'ai un contact avec une famille d'accueil qui a reçu des enfants pendant des années. Et il y a quelques années, c'était deux heures et demie avec les parents. Disant, voici le cas de l'enfant. Voici les problèmes potentiels. Voici les ressources qu'on a. Une rencontre qui durait 2 heures. Maintenant, faute de temps, parce qu'ils ont trop d'enfants à s'occuper, ben, on va passer une demi-heure, puis on éteint les feux. C'est ça qui arrive.
Et la question qui a été posée à la fin de l'extrait, elle est très bonne. Vous avez compris qu'on a appris que du côté Montréal, au SPVM, au service de police de la ville de Montréal, lorsqu'il se présente dans un appartement où il y a visiblement des enfants et il se présente pour un cas de violence conjugale ou un cas où les voisins ont entendu des cris, bon, évidemment, ça semble être un milieu dysfonctionnel. Là, quand tu te présentes plusieurs fois à la même adresse puis les parents se battent ou se crient après, ils devraient normalement faire un signalement à la DPJ. Mais ce que M. Arcand a appris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de signalements à la DPJ qui sont faits par le service de police de la ville de Montréal. Ça devrait être plus que ça. Ça devrait faire partie du travail des policiers. Ouais. Et ma question, parce que j'ai pas la réponse, si jamais vous êtes au service de police de la ville de Québec et vous avez la réponse, est-ce que vous faites des signalements à les policiers?
On
pourrait
leur demander le nombre de signalements dans les dernières années du SPVQ, puis on pourrait faire corroborer ça avec les statistiques du DPJ, parce qu'à chaque année, le DPJ sort le nombre d'interventions du DPJ. Fait qu'on pourrait établir une corrélation entre le nombre de signalements qui viennent de la police de Québec et le nombre de cas qui ont été répertoriés au DPJ.
Oui, ce serait intéressant parce qu'à Montréal, ça semble être un problème. Il n'y en a pas beaucoup qui sont faits par le SPVM. Alors, on va essayer de fouiller ça. On va aller poser des questions au SPVQ. Si vous faites partie du SPVQ et vous avez quelque chose à dire là-dessus, ben, écrivez-nous 25226. Et la prochaine question, elle est assez importante. Il y a 13 ans, plus de 13 ans, quand Paul Arcand a fait son documentaire, il a évidemment parlé à plusieurs intervenants qui travaillent à l'intérieur de la DPJ. Et tous les journalistes au Québec présentement vivent un petit peu la même situation. On reçoit des messages d'intervenants ou d'employés de la DPJ. Et le message commence toujours par la même phrase. Je veux garder l'anonymat. Mmh. Ça commence toujours par ça. Il y a une peur à l'intérieur de la DPJ de se faire prendre à parler au monde. Et c'était le cas au moment où Paul Arcand a fait le documentaire en 2005. Et j'ai demandé à Paul Arcand, quand vous parlez en fait à des gens aujourd'hui, quand vous recevez des messages et des courriels, est-ce que c'est la même peur que c'était il y a 13 ans ou ça a changé à ce niveau-là?
C'est-à-dire, la crainte de parler est toujours la même, là. Ça, c'est clair, là. Les gens, encore aujourd'hui, depuis hier, qui m'écrivent et qui sont dans le réseau, précisent plus d'une fois, là, et insistent pour que je respecte l'anonymat, la confidentialité, parce qu'ils veulent pas perdre leur job. Et ça, c'est vrai qu'il y a, cette espèce de régime de silence, d'omerta qui est présent, qui était présent aussi à l'époque. Mais c'est encore vrai aujourd'hui parce qu'il faut protéger l'institution. Puis je vais vous donner juste un cas terrible qui est arrivé il y a 10 ans. C'est un enfant qui... c'est un divorce. Et le mari, l'ex-conjoint, est quelqu'un de très violent. On menaçait la mère et finit par obtenir des droits de visite pour sa petite fille. La DPJ est dans le dossier. La DPJ recommande au père d'aller suivre des cours pour mieux gérer sa colère. Et puis un samedi, il vient chercher sa petite fille. Et étonnamment, il est hyper tranquille, contrairement aux autres fois. Il n'y a pas de mots agressifs, il n'y a pas d'attitude violente. Part avec la petite, s'en va sur le boulevard Tachon, sur la rue sud de Montréal, dans un hôtel de Best Western, et tue sa fille et se suicide. C'est arrivé le week-end. Le réflexe de la DPJ, c'est de prendre contact avec la mère le lundi pour s'assurer qu'elle parle pas aux médias. Ils étaient plus préoccupés de leur réputation dans ce dossier-là qu'autre chose. Ça montre à quel point, je pense que ils ont plus intérêt à se protéger et protéger l'institution qu'à répondre aux questions.
Ça me met en beau fusil, ouais, ce genre de réaction-là. Là.
Ouais. On a eu un message là. À cet effet-là hier, puis je nommerai pas le cas, parce que c'est un seul message qu'on a eu, mais je vais dire quand même, une histoire un petit peu semblable à ça qui s'est passé ici à Québec dans les dernières années. Alors, on parle d'un enfant qui a subi des mauvais sévices de ses parents. Et ce qu'on nous a dit dans ce message-là hier, c'est qu'après cette histoire-là, évidemment, les médias en avaient parlé, puis avec raison, c'était un cas où la DPJ était aussi impliquée dans ce dossier-là. Et ce qu'on nous a dit, c'est que peu de temps après que l'histoire soit sortie publiquement dans les médias, tous les gens qui avaient été impliqués de près ou de loin avec cet enfant-là ont été rencontrés par la DPJ. Pas pour faire une enquête sur les mauvais traitements que l'enfant avait subis, pour savoir qui avait parlé aux médias. Leur préoccupation.
Les chasses aux sorcières.
La chasse aux sorcières.
Ouais. C'était plus important, ça.
C'était plus important de savoir c'est qui dans l'entourage de l'enfant qui a coulé l'affaire aux médias puis qui a coulé des détails puis qui nous a fait mal pareil.
Est-ce que ces gens-là, puis là, je parle pas des intervenants, parce que c'est pas les intervenants, on s'entend qu'ils vont faire la chasse aux sorcières. Là. C'est les cadres de DPJ, c'est les gens qui sont dans les hautes sphères de DPJ. Est-ce que ces gens-là ont un cœur? Parce que moi, les intervenants, j'ai aucun doute que les intervenants ont un cœur puis sont là pour les bonnes raisons. Les cadres, par exemple, là, tu sais, on a eu avec Alexis hier les cadres de CPE qui se farcissent au cocktail au centre des congrès pendant que les éducatrices peinent à avoir des ratios puis des spécialistes pour aider les enfants avec des troubles d'apprentissage. Là. Les cadres, là, j'ai bien de la misère avec leur motivation. Êtes-vous là pour le pouvoir ou êtes-vous là pour les gens que vous servez?
Et la dernière question que j'ai posée à Paul Arcand, c'est là, on a appris qu'il y a à peu près 3-4-5 enquêtes différentes qui ont été lancées avec ça. Bien sûr, il y a les enquêtes normales, l'enquête criminelle par la police, il y a l'enquête du coroner, mais il y a aussi des enquêtes à l'intérieur même de la DPJ pour savoir s'il y a eu des manquements à gauche puis à droite. J'ai demandé à M. Arcand, est-ce que toutes les enquêtes qui vont être faites sont la solution ou il faut quelque chose de plus gros que ça?
C'est-à-dire que, bon, il y a des enquêtes qui sont obligatoires, là, l'enquête policière, l'enquête du coroner, ça c'est certain. Je crois pas aux enquêtes administratives, personnellement. Je sais qu'ils vont remettre un rapport dans les 60 jours. Moi, je suis celui qui, depuis hier, dit que ça prend une enquête indépendante, donc des gens qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas d'attache avec le réseau et qui ont le pouvoir de convoquer qui ils veulent puis d'avoir accès aux documents qui sont nécessaires. Mais de ce que j'ai compris ce matin, c'est que cette enquête-là du coroner va se passer après toutes les étapes devant les tribunaux. Ce qui fait qu'on n'aura pas, si vous voulez, le portrait, à mon point de vue, le portrait réel, juste avant quand même un bon bout de temps.
Alors, c'est probablement pas suffisant pour ça, pour qu'il y ait vraiment une réforme globale de la DPJ.
Ça va prendre quoi?
Ça va prendre quoi, je
pour
sais
faire
pas.
Une réforme
ça va...
globale. Encore un beau terme, ça, réforme globale. Qu'est-ce que ça va prendre? Tu sais, des fois, on dit ça va prendre un mort avant que ça change. Mais là, il y en a un.
Ah non, il y en a plus qu'un.
C'est le premier.
Je pense que c'est Lise Ravary dans sa chronique hier. Elle a fait une nomenclature de tous les enfants un recensement de tous les enfants qui sont décédés au Québec, qui devaient être sous la protection de la DPJ. Malheureusement, la petite fille de Granby, c'est pas la première. C'est pas la première, mais il faut que ce soit la dernière. Ça, c'est important.
Tu sais, les protecteurs sont supposés surveiller les gens les plus démunis, les gens les plus vulnérables, mais qui surveille les protecteurs? Je pense que on est rendu là. À quelque part, si la direction de la protection de la jeunesse, je sais que c'est hyper suranné là, comme comparaison, comme phrase, mais si la direction de la protection de la jeunesse n'est pas capable de protéger la jeunesse, excuse-moi, mais il faut les surveiller. Il faut les surveiller, il faut les mettre sous tutelle, puis il faut les prendre par la main, parce que visiblement, en haut de la pyramide, il y en a qui n'ont aucune idée comment s'occuper des enfants.
On a certaines réponses à une question qu'on se posait un petit peu plus tôt. Paul Arcand racontait qu'au SPVM à Montréal, au service de police de la ville de Montréal, il ne semble pas y avoir beaucoup de signalements qui sont faits à la DPJ. Puis pourtant, ça devrait, parce que les policiers, ce sont les premiers arrivés dans une situation où il y a un appel au 911. Si un voisin appelle parce que ça crie dans le logement à côté puis il y a des enfants impliqués, ben ils arrivent sur place et ils peuvent voir l'état des lieux. Mmh. Ils peuvent voir si ça semble être des parents responsables ou non. S'ils arrivent pour un cas de violence conjugale, puis un enfant qui a tout vu ça. Moi, je pense que c'est le devoir des policiers de faire des signalements. Au SPVM, ça semble pas être le cas. En tout cas, il y en a pas beaucoup qui sont faits. On a posé la question s'il y a des policiers qui nous écoutent ce matin. On a quelques textos 25226. Quelqu'un nous dit, je suis policier au SPVQ. On fait régulièrement des signalements à la DPJ et on travaille très souvent avec eux. Des fois, ils demandent notre assistance. D'autres fois, c'est nous qui demandons leur assistance. Et tout de suite après, quelqu'un nous dit, policière depuis 17 ans à Québec, plusieurs signalements sont faits à chaque année à la DPJ et aucun des signalements que j'ai personnellement fait ont été retenus. Et impossible d'avoir un retour malgré le fait qu'on demande un retour.
Aucun.
Puis ça veut dire que c'est une policière qui a le cœur sur la main parce qu'elle fait même des suivis après. Le signalement que je vous ai fait sur telle personne dans tel logement avec tel enfant, on en est où? Pas de retour. Pas de retour et aucun des signalements qu'elle a fait n'a été retenu.
En combien d'années, tu dis?
Elle est policière depuis 17 ans à Québec.
Imagine là, sur une période de temps, disons, un enfant à plus que 3-4. Là.
Ouais. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus...
Bonne question, 25226.
Oui, vas-y.
C'est intéressant, ça. Les intervenants de première ligne de la DPJ, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir fait technique policière? On parle de travail émotivement difficile. Les travailleurs sociaux ne sont souvent pas outillés pour ça. Est-ce qu'un autre type d'intervenant... C'est quoi la formation exactement? C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Un intervenant
de première
ligne...
Je pense que
c'est travail social.
Ben, je pense que ce sont des travailleurs sociaux. Vous pouvez nous corriger au 25226, mais il me semble que oui, les intervenants...
Parce que quand tu es travailleur social, mettons que tu fais ton cours à l'université, c'est un baccalauréat, je pense, travail social.
Oui, un bac en travail
social. Il y a des
techniques
aussi, je pense. Mais tu as des bacs en travail social. Est-ce que tu vas aussi loin dans l'horreur?
C'est pas assez large, le travail
c'est
social.
Ça, hein?
Tu peux travailler dans toutes sortes de milieux et puis c'est pas toujours des milieux difficiles comme ça. Là,
mais Henri Lafrance, le président de l'Association des grands-parents du Québec à qui j'ai parlé hier, me disait qu'il ne comprend pas, lui, pourquoi est-ce que les gens qui travaillent à la DPJ ne font pas partie de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec.
Ah, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant.
Ils sont pas dans l'ordre. Pourquoi. Ça, c'est une autre bonne question.
C'est technique d'intervention en délinquance au cégep. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ce serait possiblement pas des, ce serait possiblement pas des travailleurs sociaux qui ont fait un bac là-dedans. Alors, c'est peut-être pour ça que ça prendrait plus que ça. Mais encore là, moi, c'est pas les intervenants que je vais blâmer, hein. C'est pas les intervenants de première ligne nécessairement que je vais blâmer dans des situations comme ceux-là. Il y en a plusieurs qui ont levé la main depuis 48 heures pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Hey, t'as des intervenants qui ont 20 dossiers à eux tout seuls, qui doivent tous travailler en dedans de délais très courts, genre 30 jours.
Tu ne peux pas réussir ça.
Pas arriver, impossible. Là. C'est peut-être pour ça.
On a des petites corrections. Il y en a qui disent qu'on doit être membre d'un ordre professionnel, mais que c'est très varié. Il y aurait des travailleurs sociaux, des criminologues, des psychoéducateurs, des éducateurs
spécialisés.
Oui.
Mais il doit y avoir différents niveaux d'intervenants aussi, j'imagine,
c'est
à la
DPJ. Oui, c'est ça, exactement. Puis différents niveaux de compétences. Mais je ne sais pas à quel point. Puis les formations, je ne les connais pas. Je n'ai jamais fait ça, ces formations-là. Mais quand vous faites une technique d'intervention en délinquance ou en criminologie, ou est-ce que vous restez dans la théorie ou vous allez sur le terrain?
Ben, ils ont des stages. Oui, ils ont des stages.
Mais est-ce que c'est des stages qui te préparent à faire face à une horreur semblable comme celle qui s'est passée à Granby?
Quelqu'un nous dit que ce n'est pas 20 dossiers, c'est 40 dossiers que tu peux avoir par intervenant. Imagine, c'est encore pire que ce que j'avais lu dans les derniers jours. Si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, 25-226.